voix nue. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, rencontre en 2007 entre Pascal Vernus et Christiane Desroches Noblecourt. Ce soir, le sauvetage des temples de Nubie.
Madame Noblecourt, je voudrais vous dire combien nous sommes heureux et fiers que vous nous accordiez quelques entretiens. Vous êtes une personne double, Madame Noblecourt. Vous êtes d'abord une égyptologue que tout le monde connaît, à l'activité incessante, à la bibliographie pléthorique et très populaire. Mais vous êtes plus que ça.
Qu'est-ce que je suis ?
Eh bien, vous êtes un personnage historique. Je pense que quand on écrira l'histoire culturelle de notre XXe siècle, votre nom figurera en bonne place.
Et je vais vous dire,
ah, j'en suis convaincu, et justement, ces entretiens vont le montrer. Je voudrais qu'on commence ces entretiens par ce qui a été votre Austerlitz dans votre carrière, c'est-à-dire les monuments de la Nubie. Alors, je voudrais que vous nous racontiez d'abord comment vous avez sauvé une situation qui était catastrophique. Après le haut barrage, ces monuments allaient être engloutis dans l'indifférence générale. Et là, vous êtes intervenu, vous allez nous raconter comment, s'il vous plaît.
C'est difficile de mettre un peu trop en avant ce que l'on a fait. Je vais essayer de prendre quelques points. J'étais arrivé une fois de plus en Égypte à la saison des fouilles, au début de l'hiver, et j'ai entendu dire par des collègues égyptiens que la Nubie allait être noyée. Alors, je demandais pourquoi. On me disait parce que on va être obligé de faire un barrage qui permettra la retenue des eaux du lac, l'inondation, pour que l'Égypte ait un peu plus de supplément d'irrigation, alors que toutes les eaux de l'inondation s'écoulaient à la mer beaucoup trop vite pendant les périodes d'été. Et je ne m'étais jamais vraiment penché sur ce problème, mais soulever ce drame, qui ne paraissait pas être un drame si terrible à ceux qui étaient autour de moi, pour moi ce drame était absolument insurmontable. Et j'ai demandé à tous les Égyptiens, aux fonctionnaires, aux techniciens et scientifiques qui étaient autour de moi, ce qu'ils pensaient de ce problème. Et pour eux, le problème était réglé. On devait condamner la Nubie. Elle avait déjà été en partie condamnée quand on a fait les premiers travaux du premier barrage, mais en laissant tout de même la possibilité avec les eaux d'été que l'on pouvait retenir. Mais à partir du moment où on construisait un mur, une fortification qui allait barrer la route aux eaux, c'était fini. Et quand j'ai entendu l'explication rapide qu'on me faisait de ce que je considérais vraiment comme un drame, alors là je me suis élevé. J'ai piqué une colère. Il m'arrive quelquefois de piquer des colères. C'est jamais pour moi, mais il faut toujours piquer la colère quand c'est nécessaire et quand il s'agit d'un sujet aussi grave. C'était un sujet très drôle parce que condamner la Nubie, c'était condamner une partie de la radiance qui entourait l'Égypte, l'égyptologie et les Égyptiens. Je n'ai pas eu beaucoup de succès tout de suite, mais à la fin, j'ai fini par trouver un très haut fonctionnaire égyptien qui s'appelait Mustapha Hammer, qui était directeur adjoint des Antiquités, à qui j'ai dit « Il est impossible, impossible que vous laissiez faire. » Il me dit « Mais je ne peux pas faire autrement. » La façon dont vous me répondez, lui dis-je, m'afflige. Vous, Égyptiens, vous baissez les bras. Il m'a dit, je ne peux pas. Je n'ai aucun moyen. Alors je lui ai dit, puisque vous n'avez aucun moyen, déléguez-les-moi. Permettez-moi d'agir à votre place. Dites que j'ai outrepasserai tous mes droits, que je suis une femme épouvantable. Mettez-moi à la porte de l'Égypte, mais attendez que j'ai réussi mon projet. Il était assez spirituel, il m'a dit « Je vais essayer de me taire jusqu'à ce que vous soyez arrivé au but que vous recherchez, mais ça m'étonnerait beaucoup, enfin, je vais essayer. » Il a commencé par essayer d'empêcher mes réflexions trop percutantes qui tombaient dans des oreilles de destructeurs qui ne pensaient qu'à une seule chose, c'est d'avoir la paix. Ce qui n'est pas heureusement complètement arrivé, car je suis arrivé à tomber devant des oreilles favorables qui m'ont écouté. Et cette histoire de la Nubie, la destruction du terrain qui était vaguement dans les airs, est devenu le problème numéro un en Égypte.
Oui, je crois que vous avez eu une intervention particulière avec le général de Gaulle. Je crois que l'anecdote est savoureuse, vous pourriez nous la raconter.
Laquelle? Parce qu'il y en a eu plusieurs.
Et je crois que vous êtes engagé au nom de la France et qu'ensuite vous avez été voir le général et que vous lui avez dit « Mon général, je me suis engagé au nom de la France, maintenant il faut suivre ».
Oui, il est évident que je ne pouvais rien, vraiment, faire de constructif, ni aboutir à un résultat si je n'allais pas le plus loin possible. Or, aller le plus loin possible, il y a 20 ans, devant une assemblée internationale d'êtres immobiles, à peu près, c'était très difficile. Alors, le mieux, c'était de frapper très haut. Moi, je me suis dit, très haut, quand on mesure la taille des gens, il n'y a que le général de Gaulle. Je vais donc aller voir le général. J'ai été voir le grand Charles, lui-même, en demandant un rendez-vous au sujet duquel j'étais obligé de confier à son secrétaire les raisons de mon rendez-vous. Alors là, la prudence m'a reprise. Et je me suis dit, si je dis le sujet, on va me mettre à la porte. Donc, je n'aurai pas le rendez-vous du général. Comment faire? Alors, je me suis rappelé que j'étais une femme. Et les femmes, quelquefois, ça doit ondoyer. Alors, j'ai été voir un ami du général, un de ses amis. Je lui ai expliqué pourquoi je voulais voir le général. Je n'ai pas tout dit, mais j'ai tout de même expliqué. Mais je n'ai pas dit le but exact que je cherchais, mais les raisons pour lesquelles le général devait être informé. Et j'ai eu mon rendez-vous. Une fois mon rendez-vous acquis, je me suis rendu à ses prescriptions très précises, tel jour, telle heure, demander tel secrétaire ou secrétariat, et je suis arrivé devant un géant. Un géant qui m'a reçu galamment, avec énormément de gentillesse, des allures de grand-père devant moi, car il me dépassait de je ne sais pas combien de têtes, et puis il savait à peu près que je devais lui parler d'un sujet qui me tenait à cœur, mais il ne savait pas tout. Il me reçoit dans son bureau, il s'assoit, après m'avoir demandé de prendre place, il met ses deux mains sur son abdomen qui était déjà assez considérable, et il me dit « Alors madame, de quoi est-il question ?» Alors j'ai commencé à lui raconter mon histoire. Il a écouté avec une patience de grand-père, qui écoutait une petite fille qui lui racontait l'histoire de son dernier joujou. Mais ça l'intéressait. On voyait que dans ses yeux, il y avait un éclair. Ça a bien duré presque plus d'un quart d'heure. Je lui ai tout raconté à toute vitesse, mais j'ai tout raconté, l'histoire de la Nubie, si c'était passé avant, pendant, après, ce qui pouvait arriver, ce qu'on avait à craindre, etc. Et à la fin, il m'a dit, grave problème, mais c'est énorme ce que vous me demandez. Mais je lui ai dit, général, je ne viens pas vous parler d'une pécadille. Je viens de vous parler d'un problème qui est à votre hauteur, qui est à votre mesure. Donc, il n'y a que vous à qui je peux le parler. Parce que j'ai envisagé les personnes d'autres pays, mais je me suis dit, si je ne convainc pas le général de Gaulle, c'est même pas la peine d'aller en parler, même à un homme comme Churchill ou même Roosevelt qui était disparu. C'est pas possible. Alors il m'a bien écouté et il m'a dit, il vous faut des gens convaincus. Il n'y en a pas beaucoup. Ces gens-là, vous n'arriverez pas à les avoir par intérêt. Il faut que ce soit des gens qui croient en idéal. Mais je lui ai dit, mais général, monsieur adressé à vous ! Alors c'est exactement la description du personnage que j'espérais et que je viens de poursuivre. Et une fois que la personne dont vous venez de me donner des définitions est convaincue, la bataille est gagnée. Il m'a dit, oh, c'est très audacieux ce que vous venez de dire. Général, c'est à votre hauteur. C'était pas un coup de poing dans son nez. Il n'avait pas besoin d'un compliment pareil. Mais il a quand même écouté. Je lui ai dit, général, c'est à votre hauteur. Je peux pas aller demander à n'importe qui. Je suis venu vous le dire parce que vous êtes le seul personnage capable de comprendre l'importance internationale. Non pas que j'entrevois. Tout le monde devrait l'entretenir. Mais qui existe. Mais ce que je ne voudrais pas, c'est que cette importance échappe à un Français. Il a écouté, il n'a pas dit un mot, hein, il a écouté. Il m'a dit, c'est votre but. J'ai dit, oui, c'est mon but. C'est mon but, c'est mon but, et mon but est avant tout que le général de Gaulle donne l'exemple. Parce qu'il est le seul capable à être suivi. Moi, je ne suis qu'un moteur. Moi, je suis l'égyptologue. Alors, mon métier d'égyptologue, c'est de vous avertir. C'est tout ce que je peux faire. Mais vous, votre métier de grand français, c'est celui de prendre au sérieux ce que je vous dis et d'agir. Si vous pensez que c'est important, vous agissez. Si ça ne vous paraît pas important, si vous pensez que vous pouvez n'importe quel chien mal peigné de prendre le problème en main, et d'aller faire le commis voyageur dans le monde entier, de revenir bredouille, laissez faire. Moi, je m'adresse au général de Gaulle, parce que le général de Gaulle, je m'excuse, a fait ses preuves. Mais vous êtes le seul capable, après les preuves que vous avez données, de réaliser ce que je rêve pour mon pays, que ce soit la France qui prenne le branle.
L'argument est irrésistible, alors.
Oh non, il aurait pu être simplement flatteur, mais il a très bien compris. Il m'a dit, oui, mais vous me demandez des choses. Je dis, oui, je sais, général. Vous êtes accablé de devoirs, accablé de problèmes. Vous en avez eu beaucoup, vous en aurez encore. Mais à qui puis-je demander et qui puis-je alerter, éclairer à fond? Je ne vous donne pas immédiatement toutes les conséquences de cet ouvrage, parce que ces conséquences, je vais vous les donner. Il y a énormément de répercussions. Mais quand vous serez alerté sur tout le problème, je pense que vous êtes un des seuls à qui on peut confier le problème et ne pas le gâcher.
Lorsque vous avez rencontré le général de Gaulle, vous étiez engagé au nom de la France sans avoir de mandat. Qu'a dit le général de Gaulle à ce moment-là?
Je n'avais aucun mandat.
Qu'a-t-il dit alors? Il vous a pardonné?
D'abord, il ne s'attendait pas à ce que je lui parle d'un mandat que j'aurais pu obtenir sans son autorisation. Mais il a bien fallu que je lui dise. Alors, j'ai pris l'exemple qui est passé devant nous, c'est-à-dire le fait que telle chose n'avait pas été promise ni même proposée. Je lui ai dit, mais personne ne m'a jamais autorisé à faire telle chose. Si je les ai faites, vous n'étiez pas là pour que je puisse vous demander l'autorisation. Il a regardé, il a fait son œil mauvais, et puis il est redevenu très gentil. Il a dit, vous avez gagné, madame, vous avez gagné. Il était extraordinaire, cet homme, extraordinaire. Elle leur dit, bon, alors on va faire ça, on va faire ça. J'ai dit, oui, mais ça, faut faire attention. Hein, parce que ça on aura des ennuis pour telle chose. Il m'a écouté. Et puis pour le reste, il a appelé un de ses adjoints qui s'appelait Burin-Desrosiers. Je ne sais pas ce qu'il lui a raconté. Desrosiers est parti, est revenu avec un type, un attaché d'ambassade qui s'appelait Maillard, qui est maintenant attaché d'ambassade, ou du moins secrétaire général des affaires étrangères, monsieur Maillard. Il lui a dit quelque chose, il lui a expliqué pas mal de trucs, il m'a posé des questions pour que Maillard soit au courant. Et puis, le problème a démarré.
Alors le budget était conséquent quand même. Vous aviez demandé beaucoup d'argent quand même.
Il fallait surtout demander des gens qui auraient l'intelligence de réunir l'argent. Ah oui, naturellement. C'était pas la France qui devait choisir tout ça et sauver tout ça.
Il fallait un comité international alors.
Il fallait créer un comité international, prendre des moteurs, des types intelligents qui à la tête de chaque comité international ferait marcher la propagande. Tout ça, ça a été fait, on a construit tout ça. Il a fallu quelques mois pour mettre sur pied tous les comités, toutes les choses qui marchaient.
Et vous êtes mis sous l'égide de l'UNESCO. Et vous êtes mis sous l'égide de l'UNESCO, alors.
Alors, on l'a mis sous l'égide de l'UNESCO immédiatement. Oui, ça, je m'excuse, j'avais oublié de vous dire que pour toute garantie, je m'étais assuré que la protection et l'aide de l'UNESCO seraient là et que le principal acteur était le directeur général de l'UNESCO, René Maheu, qui était en même temps un très cher ami et sur qui je pouvais compter et qui a été un homme remarquable.
Alors l'organisation technique de cette sauvegarde a dû être un immense travail à superviser.
Un immense travail. Il a fallu trouver des présidents pour chaque pays. Dans chaque pays, il a fallu trouver les responsables de ceux qui seraient capable de réunir autour d'eux non seulement la propagande, mais l'argent. Ça s'est fait en un an à peu près.
Voix nue. Rencontre en 2007 entre Pascal Vernus et Christiane Desroches-Noblecourt.
Alors je voudrais que vous nous expliquiez de manière détaillée ce qui frappe le plus les touristes qui vont en Égypte, c'est Abou Simbel. Et Abou Simbel, c'est un peu votre réalisation majeure. Vous pourriez expliquer un peu comment vous avez supervisé, comment vous avez mis en place cet exploit. C'est un exploit technique qu'est l'élévation de ce temple de manière à le faire sortir des eaux. Voulez-vous nous raconter?
C'était un problème épouvantable, mais c'est malheureusement le problème que l'on a jeté devant mes pieds quand j'ai commencé à demander de l'aide. On m'a dit, oui, vous êtes très gentil, mais vous riez. Vous voudriez qu'on déménage une montagne? C'était pas facile de répondre. J'ai dit, si, c'est possible. Ils m'ont dit, il y en a un qui était à côté, qui était le conseiller du directeur général. Il dit, eh ben, elle doute de rien, la petite dame. Mais il fallait le dire. Alors ils m'ont dit, mais voyons, sauver les temples de Nubie, et surtout, Le plus grand exemple de temple qui est en Nubie, c'est-à-dire ces deux montagnes jumelles dans lesquelles Ramsès a fait creuser un temple pour sa gloire, un autre temple pour la beauté et l'action de sa première femme, Nofretari. Mais ça n'est pas facile. Alors j'aurais dit, mais naturellement, si c'était facile, je ne me serais pas adressé à vous. Mais j'ai tout de même des jetons dans mon sac. J'ai des ingénieurs auxquels je me suis adressé pour leur demander leurs différents plans. Ils n'avaient pas de plans. Ils m'ont donné des plans, mais aucun ne valait la peine de s'y arrêter. Mais nous allons faire un comité. De ce comité, il va ressortir malheureusement des comités, parce qu'on ne peut rien faire sans des comités, quoique je n'aime pas ça. Mais on va prendre un président général, des adjoints, et on va essayer de mettre sur pied la chose. Ce qu'on a fait, et on y est arrivé, avec un brûlant de jalousie internationale que vous ne pouvez pas imaginer. Dans chaque pays, il y avait quelques égyptologues favorables et deux ou trois salauds qui auraient fait n'importe quoi parce qu'on ne pouvait pas penser que ça serait, mettons, moi qui ai eu cette idée. Chacun voulait que l'idée lui revienne. Mais je leur ai dit, mais bougre d'idiot, dites que c'est vous qui avez cette idée. Ils l'ont bien dit, mais personne ne les a cru. Enfin bon, on est quand même arrivé à ça. Mais j'ai lutté pendant des mois et des mois et des mois. Quand on est arrivé à mettre ça sur pied, alors là, c'était gagné. Parce que j'avais pour moi le directeur général de l'UNESCO. J'avais d'abord emmené à Abu Simbel le directeur de l'époque, un Américain qui n'était pas bête, qui s'appelait Luther Evans, qui était le directeur de la librairie de Washington. Il n'est peut-être pas à la hauteur du projet, mais presque à la hauteur. Et il a compris. Et quand il était arrivé, heureusement, à la fin du terme de sa nomination, c'est Véronèse qui lui a succédé. Et puis ça s'est très bien passé. L'UNESCO a pris la tête avec René Maheu, qui était français que vous devez connaître, qui était à ce moment-là à la tête des services d'information de l'UNESCO et qui très vite a été nommé directeur adjoint et directeur général de l'UNESCO. Alors ça a été une veine insensée, c'est que René Maheu a été mis à la tête de l'UNESCO. D'abord parce qu'il m'a fait confiance. Alors là c'est une chance extraordinaire. Je m'en rappelle, je ne le connaissais pas. Et un jour, j'en ai parlé à l'avocat international qui est au bureau de l'UNESCO, qui est un Égyptien, un copte qui s'appelle... Oh, je ne me rappelle plus son nom. Enfin, un copte très intelligent. Et je lui ai dit, il faut absolument, absolument convaincre le directeur général de l'UNESCO. Il m'a dit, bon, ben, je vous invite à déjeuner avec lui. Alors, il m'a invité à déjeuner avec Luther Evans. Et je lui ai, pendant tout le déjeuner, j'allais dire, servi la salade. Il a eu toute l'histoire de la Nubie, il y en avait même trop. Mais à la fin, il m'a dit, n'en dites plus, j'ai compris, j'ai tout avalé, je suis d'accord. C'était Luther Evans. Alors ça, ça a été épatant, parce que j'ai pu tout de suite convaincre le directeur général de l'UNESCO. Alors, il s'est montré favorable à tous les projets, tout de suite.
Et comment vous avez choisi le projet qui a été finalement retenu de découper le temple en petits blocs ?
Il a été convaincu. Mais une fois qu'il a été convaincu, il m'a dit, bon, ben, quels sont les projets que vous avez dans votre poche ? Ben, je lui dis, tous les projets que des ingénieurs m'ont proposés, ils sont pas tous très bons, ils sont moyens, il y a beaucoup d'autres que l'on aurait pu ne pas éviter. Mais il faut faire des compétitions maintenant, il faut faire un appel. Alors on a fait un appel qui est tombé dans l'eau, parce qu'on n'a pas trouvé un seul type de talent qui ait trouvé mieux. On a recommencé, enfin, on a vasouillé pendant plusieurs mois. Et on est arrivé à faire des réunions d'ingénieurs. Et là, on a commencé à connaître des gens de talent qui ne s'était pas trop montré en public et qui avait énormément de valeur. Et ils sont arrivés petit à petit à toucher le point essentiel de toute la sauvegarde des temples de Nubie. C'est-à-dire, il n'y avait qu'un seul moyen, c'était de démonter les grands temples. Les autres temples qui étaient construits, on pouvait les déménager. Mais les deux temples d'Abou Simbel, avec deux ou trois autres qu'on pouvait aussi déménager, ces temples-là étaient des temples grottes, comme les deux temples d'Abou Simbel. Il fallait donc les tailler dans le rocher et les sortir de là. C'est ce qu'on a fait. Et on est arrivé à extraire tout ce qui était nécessaire d'extraire du bloc des rochers pour sauver tous les temples de Nubie qu'il ne fallait pas abandonner. Et on y est arrivé. On y est arrivé.
Et alors, quel a été votre sentiment lorsque, pour la première fois, vous avez pu voir ce temple reconstitué? Et quel a été votre... Racontez-nous, ça a été une émotion extraordinaire.
Ça a été une grosse émotion, c'est sûr. Mais j'avais tellement parlé de la chose, j'avais tellement tourné autour du sujet que ça me paraissait normal d'en parler toute la journée. C'était devenu mon idée fixe. Il est évident que c'était un projet tellement fou que d'arriver presque à l'aboutissement de la chose, je me suis demandé si c'est pas moi qui rêvais à un moment donné. Mais non, je rêvais pas. On est arrivé. Je suis arrivé à faire extraire les deux temples d'Abou Simbel de leurs racines rocheuses et les remonter plus haut. C'est invraisemblable, mais on y est arrivé.
Oui, il a fallu le découper en petits carrés, en petits blocs,
numéroter chaque bloc. Il a fallu les découper en blocs assez gros même.
Numéroter chaque bloc et le reconstruire.
Les numéroter, les remettre plus haut. Ça a été un exploit. Avec des ingénieurs en partie italiens et français qui ont été remarquables.
L'Institut Géographique National...
L'Institut Géographique National a été remarquable parce qu'ils ont... je les ai envoyés avant, ils ont relevé bloc par bloc, ils ont mesuré chaque pierre, enfin, ils ont été étonnants.
Alors, lorsque
L'IGN a été remarquable.
Lorsque vous avez poussé la porte du temple et que vous êtes entré, vous avez vu à la même place pratiquement le temple
devant. J'ai vraiment cru rêver. Je me suis dit, mais je me trompe. Ben non, je ne me trompais pas.
Alors vous êtes entré à l'intérieur, vous avez marché vers la triade.
On est allé
jusqu'au fond.
Et le rayon de soleil est venu au même endroit, à quelques secondes près.
Oui, vous nous racontez l'histoire en détail. C'est parce qu'à certaines époques, le temple était conçu de telle manière que lorsque le soleil se levait...
Il frappait le fond du temple. Eh bien, on n'a pas déplacé le temple, on l'a quand même remonté. Eh bien, à quelques centimètres près, le rayon solaire est venu frapper le fond du temple et les quatre statues qui étaient maintenues dans le fond du temple. C'était tout ça, c'était magique.
Mais la magie est restée parce que, moi je me souviens, j'étais tout jeune à l'époque.
Vous y avez été tout de suite après.
Bien sûr, mais ça a défrayé la chronique. Et donc, l'histoire d'Abou Simbel a été le premier mouvement d'une mécanique qui allait s'enclencher et auquel vous alliez donner à nouveau... Une nouvelle impulsion avec, par exemple, l'aventure de Toutankhamon. Mais avant de passer à Toutankhamon, dans le prochain entretien, nous allons vous interroger sur votre carrière d'égyptologue, Madame Nobecourt, pour savoir comment peut-on être égyptologue.
Il faut être fou.
Mais vous nous direz ça au prochain entretien.
Insensé, voilà. Fou, l'un des deux.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre en 2007 entre Pascal Vernus et Christiane Desroches Noblecourt. À voix nue, réalisation Christine Berlamont, prise de son Frédéric Quérou, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr. Thank you.